Louvreuse et ses fidèles complices pour toute l'actualité du cinéma. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, Louvreuse, Louis-Marie, Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous.
Il y a moins d'agitation ce soir que
oui,
la semaine dernière.
C'est vrai, nous étions aux rencontres traverses vidéo.
De formidables rencontres à tous les points de vue.
Oui. Et très alors, intéressant. Ouais.
On a eu l'occasion de parler avec des artistes passionnants, mais ce soir nous revenons à nos fondamentaux, le cinéma. On en parlait quand même la semaine dernière, mais là, toute l'actualité lui sera consacrée et avec vos conseils de films à voir à la télé.
Oui, j'ai sélectionné 4 films pour passer un bon moment de cinéma, mais à la télévision, hein, sur son canapé tranquillement. Et puis on peut aussi... on va pas éteindre les écrans parce que là c'est un conseil blu-ray, donc on va la laisser allumer.
Ça vaut mieux.
Voilà, un conseil blu-ray qui est tout chaud, elle vient de sortir là.
Vous nous intriguez, vous nous
intriguez. Très beau film d'animation.
Ah, le retour du fils prodigue. Guillaume Sidom, vous savez que vos admiratrices étaient inquiètes. Elles ont fait le pied de grue à la radio. Et là, je crois que le vent les a.
Bah, du coup,
elles n'ont
pas fait le pied de grue à la radio, elles ont fait le pied de grue à travers vidéo, j'imagine.
Ah ben non, elles étaient à la radio, elles s'étaient trompées d'adresse.
Ah d'accord, elles se sont trompées d'adresse.
Bon. Elles étaient venues là pour vous.
Ah oui, bon, bah, écoutez, j'étais pas là. Désolé.
Ben oui, oui, oui. Bah, alors rassurez-nous
du
sur
coup,
votre
sens. On a donné votre adresse personnelle, hein, vous aurez des visites.
Tout va bien, Louis-Marie, merci beaucoup.
Tout va bien. Guillaume Sidom, bon, ce soir, pas de mystère.
Oh, une fresque magistrale, hein. Haut les masques. En hommage à Émilie Dequesne, disparue dimanche dernier.
Il y aura avec nous également notre homme de loi des séries, Grégory Combe, qui parlera ce soir d'un animé. Oh, ça vous surprend ? Il adore ça, les animés.
Très surprenant.
Hein. Les animés, d'un animé dont il nous avait parlé du début. Et oui, puisque, en fait, cet animé à une saison coupée en 2 morceaux. Et c'est du deuxième morceau dont il va nous parler. Première et unique saison avec le final. Donc, cet animé, c'est Du mouvement de la Terre qu'on peut voir sur Netflix. Qu'y a-t-il d'autre dans le panier de Louvreuse à part toutes ces belles chroniques? Eh bien, Louvreuse scrutera l'affiche de la semaine avec vous, Laurent Martin. Et puis, nous parlerons du petit écran pour les reprises, mais aussi du grand, parce qu'il y a des reprises à découvrir et à voir sur les grands écrans des cinémas et de ceux qui sont près de chez vous, il y en a. Et puis, il y aura, comme d'habitude, en fin d'émission, les coups de cœur, parce qu'on a toujours des films, des manifestations, des expositions aussi, qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. On est ensemble jusqu'à 20h. Et puis, l'actualité du cinéma à Toulouse et dans toute la région Occitanie. Et on s'en va loin, loin dans l'Occitanie cette année. Vous allez tout savoir à propos de Ciné Latino, les 37e rencontres de Toulouse qui auront lieu du vendredi 21, c'est-à-dire vendredi prochain, jusqu'au dimanche 30 mars. Et avec nous, Odile Boucher, qui fait partie, entre autres, parce qu'elle a beaucoup de casquettes, du comité de sélection. Bonsoir, Odile Boucher.
Bonsoir, comment allez-vous?
Bien, et vous?
À
quelques jours de l'ouverture, on est toujours sur des charbons ardents à ce moment-là.
Ah oui, ça speed un peu, là, ces jours-ci.
Oui, parce qu'il faut faire tout rentrer dans les cases. Et cette année, ce n'était pas facile. Hein.
Non.
D'ailleurs, Guillaume a parlé de problèmes de la bourse, n'est-ce pas, Guillaume?
Oui, des problèmes des subventions. Comment quand même résister avec 178 films dans un contexte complètement incertain aujourd'hui?
Oui, mais c'est le contexte est très incertain, mais pour cette année, ça va encore. Et cette année, ce qui nous manque beaucoup, c'est la Cinémathèque. Elle est en travaux. Et la grosse difficulté de l'année, en plus des difficultés financières, c'est de nous loger dans Toulouse. Et ça risque d'être encore comme ça l'an prochain aussi. puisque les travaux sont prévus jusque début mars, mais bon, pour peu qu'ils prennent 2 semaines de retard, pour nous, c'est pas bon. Et 2 semaines de retard pour des travaux, vous reconnaîtrez que c'est pas beaucoup. Donc, on risque d'être dans la même situation l'an prochain, effectivement. Mais, voilà, disons que là, on va être dans la cour de l'INSAV, qui nous reçoit, enfin, l'INSAV et le CROUS, d'ailleurs, tous les deux, hein. Et on est répartis dans les salles. Enfin, on a donc la CAP Poésie, on a l'INSAV, la salle de l'INSAV va nous servir, la salle du Sénéchal nous reçoit aussi, l'espace des diversités, et puis toujours bien sûr l'ABC, le pâté, ça c'est nos valeurs sûres, on va dire.
Le cratère aussi, je crois.
Le cratère, bien sûr, mais le cratère c'est tous les ans.
Le cosmo,
même Utopia pour 2 séances, je crois.
Oui. Alors, Guillaume soulignait les difficultés que vous avez pu rencontrer, mais néanmoins, vous proposez un programme formidable cette année.
Ah, ben oui, absolument. Tout à fait formidable.
C'est toujours les mêmes questions qu'on se pose, à savoir comment vous faites pour trouver ces films et les choisir surtout, parce qu'on doit vous en envoyer quelques-uns quand même.
Oui, énormément. C'est un gros travail qui se fait tout l'hiver, enfin toute l'année en fait. Et oui, les gens nous envoient des films. C'est-à-dire que maintenant, le festival est quand même bien connu des cinéastes latino-américains qui nous envoient effectivement des films. On a une page d'inscription et ils inscrivent leurs films. Et nous avons des comités, plusieurs comités qui se répartissent le travail entre les gens qui travaillent sur le focus. Enfin, vous avez les sections dans le programme. Chaque section correspond en fait à un comité. Il y a le comité fiction, il y a le comité documentaire, il y a le comité court-métrage, il y a maintenant un comité animation, et puis le focus. Donc le focus, c'est le choix du thème qu'on prend pour l'année. Cette année, on a donc dans le focus un hommage à Karim Aynous, qui est notre invité d'honneur, donc un grand cinéaste brésilien. Il est brésilien-algérien. Donc,
ce qui explique son nom.
C'est son nom de famille, oui, son nom, mais aussi c'est la variété de sa filmographie, parce que si vous regardez ses œuvres, il y en a qui se passent au Brésil, il y en a qui se passent en Algérie, il y en a qui se passent à Berlin.
Enfin, oui.
C'est vraiment.
C'est d'ailleurs à Berlin qu'il vit, non ?
Oui, en ce moment, oui.
Oui, parce qu'il bouge un peu.
Oui.
Je vous ai interrompu à propos de Karim Aynous, mais il y a une autre cinéaste aussi,
oui,
importante,
alors,
qui vient.
Albertina Carri, elle est argentine et elle est dans la section Otra Mirada, parce que c'est vraiment un regard différent de celui des autres, et un regard très particulier, et une filmographie très très variée. Elle travaille beaucoup sur des thèmes de mémoire, de famille, mais également des thèmes queer et des choses, disons, elle a une variété de points d'intérêt et de modes d'expression qui est assez remarquable. Et bon, donc on va présenter là tous ces longs métrages. En 2006, si je ne m'abuse, on avait présenté ces courts métrages. Et là maintenant, on a tous ces longs métrages. Voilà.
Alors dans la compétition, il y aura un film de moins que les années précédentes.
Oui, on a dû diminuer un peu nos compétitions, tant en documentaire qu'en fiction, puisqu'on a enlevé un film à chaque section. Et oui, ben oui, on est bien coincé. Parce qu'un film, c'est pas que un film. C'est un film, c'est un invité, c'est un hôtel, c'est un trajet en avion, c'est voilà.
Et voilà. Tout ouais. Ça multiplié par le nombre de films,
oui.
Ça fait ça représente un capital, mais néanmoins vous continuez, et vous l'avez dit, à porter haut les couleurs du cinéma latino-américain. Il y a une compétition fiction, mais aussi une compétition documentaire,
bien sûr, et aussi une compétition de court-métrage, et il y a en plus un programme d'animation cette année, un programme de court-métrage d'animation.
Et chaque fois, ces films sont récompensés par différents jurys, bien sûr,
oui.
Mais aussi par le public.
Oui, alors ça, c'est Le prix de la Dépêche du Midi, c'est le prix du public. Alors les gens votent quand ils vont voir le film. Il ne faut pas qu'ils oublient de mettre leur petit bulletin à la sortie dans l'urne. Comme ça, ça permet de donner un prix du public, effectivement. C'est un prix auquel tiennent assez les cinéastes parce que ils y sont attachés. Enfin, c'est le regard du public qu'ils cherchent, hein, a priori. Donc c'est important pour eux.
Je disais qu'il y a des prix, mais ils sont nombreux. Pour la fiction, il n'y en a pas moins de 7, sans parler du public. Oui. Ça en fait quelques-uns. Le Grand Prix Coup de cœur, le plus fameux, mais il y a Ciné Plus Festival aussi.
Oui, il y a le prix de la critique, il y a le prix des cheminots, il y a le prix des électriciens gaziers. Oui. On a des prix comme ça qui sont aussi des prix qui viennent de... Oui, vraiment d'aficionados populaires, quoi, qui sont vraiment... Nous, on tient beaucoup à ces jurys-là qui sont... c'est le public, je pense que c'est vraiment le public local, toulousain, qui réagit à ce qu'on leur apporte. Donc c'est... Ouais.
Et pour les documentaires aussi, il y a le prix du public, on le disait, et deux autres prix, le prix documentaire des Rencontres de Toulouse et le prix Cygnis,
ouais.
Qui est le prix de Cygnis, c'est l'association catholique mondiale et qui participe à pas mal de festivals, dont... le vôtre, celui.
Oui, tout à fait, depuis fort longtemps.
Que vous représentez depuis longtemps. Hein.
Oui.
Et on va continuer à parler de cette programmation passionnante et de Ciné Latino, bien sûr, mais on voulait aussi commencer par elle.
Je m'appelle Rosetta. J'ai trouvé un travail. J'ai trouvé un ami. Je ne tomberai pas dans le trou.
Je suis pas belle, non?
Si vous êtes pas belle, je vois pas qui est.
Adriana Carambeu? Kate Moss? Naomi Campbell? Elles sont belles. Mais moi, non. Moi, j'ai du charme. C'est autre chose. Je plais à certains hommes, mais pas à d'autres. Alors que ces filles-là, tout le monde les trouve belles.
C'est incroyable. Vous dites exactement la même chose que Kant dans la critique de la faculté de juger. Mais... Exactement.
Qui ça?
Emmanuel Kant, un philosophe allemand.
Comment vous appelez-vous?
Blake. Andrew Blake.
Je suis Odile. Vous pouvez m'appeler Madame Odile.
Entendu, Madame Odile.
Il se fait tard. Je vais vous installer dans votre chambre. Nous nous organiserons demain. Si vous êtes sérieux, on arrivera à s'entendre. On est tranquille ici. Et vous aurez vu sur le parc.
Ah oui, le parc, super.
Voici votre royaume.
C'est ça, ma chambre.
Je vais pas vous faire dormir dans les écuries. Demain matin, je ne vais pas être cruelle pour votre premier jour. Je vous attends en bas à 6h30.
Chez nous, dans les bed and breakfast, on laisse les gens...
Vous êtes du soir ou du matin?
Pardon?
Votre douche. Vous la prenez le soir ou le matin? Vu l'état de la plomberie à cet étage, si vous ne voulez pas finir sous un torrent glacé, il vaut mieux nous mettre d'accord. Alors?
Du matin?
Parfait, je suis du soir. Bonne nuit. Au fait, bienvenue au domaine de Beauvilliers.
Il était bon de le dire à la fin, bienvenue au domaine de Beauvilliers, parce que cet homme est assez froidement accueilli, et pour cause, il y a un quiproquo. Madame Odile, la gouvernante, croit à accueillir un homme qui a postulé au poste de majordome dans cette belle et vaste demeure. Or, c'est un Anglais qui revient là parce que c'est une forme de pèlerinage, puisqu'il est à cet endroit, puisque c'est là où il avait rencontré sa femme qui maintenant a disparu. Alors, il est venu là et c'est pour ça qu'il parle français, parce que sa femme, elle aussi, était française. John Malkovich, difficile de reconnaître sa voix, et évidemment Emily de Guy en gouvernante. Le film s'est totalement cramé, hein, c'est ça. À savoir le film qui est l'adaptation du livre qui a été un best-seller en 100 ans, réalisé par l'auteur du livre lui-même. Et puis juste avant, il y avait un extrait de Pas son genre. Le film de Lucas Bellevaux, magnifique film et rôle pour Émilie Dequen, dans lequel elle jouait le rôle d'une coiffeuse qui était séduite par un prof de philo qui était au purgatoire à Arras parce que il n'imaginait qu'enseigner à Paris Louis le Grand ou Henri IV. Ben voilà. Et puis Il est envoyé en pénitence là-bas, il a un poste. Alors heureusement, il a toutes ses heures d'enseignement regroupées en 3 jours, ce qui fait qu'il lui permet de revenir à Paris toutes les semaines, et il loge à l'hôtel. Et il va tomber sur cette coiffeuse, une fille magnifique, mais c'est le choc des mondes. Un très cultivé Kant, vous l'avez entendu, comment draguer avec Kant, et l'autre qui aime les soirées karaoké avec ses copines et qui élève seul son fils, voilà. Et Lucas Bellevaux en fait une très très belle histoire, juste avant le film qui a révélé Émilie Dequesne, à savoir Rosetta.
Le Palme d'Or à Cannes.
Oui, elle a pris l'interprétation féminine.
Elle avait même pas...
17 ans.
Même pas 18 ans. Elle était à peine majeure en 1999. Alors, quand le film est présenté à Cannes, elle l'était, puisqu'elle est née en 1981, mais quand elle a tourné le film... Et encore, pas encore, parce qu'elle est née au mois d'août. Elle avait pas encore 18 ans, même. Et le film était présenté à Cannes, révéler cette gamine extraordinaire, le nez rougi par le froid, c'est comme ça qu'on la voit la première fois dans le film, et puis après elle est époustouflante. Elle, c'était une fille, une actrice déterminée, et c'est sur les conseils de sa grand-mère, je crois, qu'elle est partie faire un casting alors qu'elle y pensait même pas, et qu'elle a réussi à décrocher ce rôle. C'est assez incroyable. Et rappelez-vous, l'année dernière, 25 ans plus tard, elle remontait les marches, une façon de fêter l'anniversaire de Rosetta, de cette Palme d'Or et de son prix d'interprétation. Alors après Rosetta, on la voit dans beaucoup de films, le film de Christophe Gans, vous savez, le Pacte des loups,
oui, qui mélange les films avec Vincent Cassel.
Ouais, de fiction, ouais. Et Samuel Le Bihan, il y a même Jean-Yann dans le film. Il y a Une femme de ménage aussi de Claude Berry, La fille du RER d'André Téchiné, l'histoire de cette jeune femme qui dit qu'elle a été agressée, une agression antisémite, alors que c'est pas vrai, et donc tout va jouer dans ce quiproquo. Et puis elle va avoir un creux, et puis elle revient avec Joachim Lafosse et à perdre la raison, et puis surtout j'en parlais de Pas son genre en 2014 où elle avait pour partenaire Loïc Corbery. Elle a fait plein de choses extraordinaires. Elle avait une carrière encore on l'attendait encore. 25 ans de carrière, faut compter ça. Elle a tourné plus de 50 films. Elle est apparue dans différentes séries, dans différentes fictions. Et elle marquait par ce qu'elle était, par sa façon de jouer. Donc, on veut lui dédier tout simplement cette émission. Et notre ami Guillaume Sidom va continuer à parler d'elle.
De lui, en fait. C'est un de ses camarades de guerre qui m'a envoyé tous ses dessins. Albert Mayer.
Peut-être qu'on pourrait
l'inviter. Mais ce serait une bonne idée.
Un père et sa fille qui parlent de celui qui manque, le frère, qui était parti à la guerre, la Première Guerre mondiale.
Tout à fait, Lumarie, Émilie Dequesne avec Nils Arestrup, c'est sa signature pour Au revoir là-haut, film signé Albert Dupontel, sorti sur vos écrans en 2017, d'après l'œuvre de Pierre Lemaitre, je vais y revenir. 13 nominations au César et 5 récompenses en 2018, dont celui du meilleur réalisateur pour Albert Dupontel, de la meilleure adaptation, des meilleurs décors, des meilleurs costumes et des meilleures photographies, n'en jetez plus. Musique signée Christophe Julien, que vous entendrez à la fin de ma chronique. Distribution sublime, Dupontel en tête. Laurent Lafitte, Nahuel Pérez Biscaya, Mélanie Thierry, Nils Arestrup, j'en ai parlé, et évidemment, Émilie Dequesne, la comédienne belge disparue brutalement dimanche d'un cancer rare et extrêmement agressif. Elle avait seulement 43 ans. Elle joue ici un rôle secondaire mais marquant, le personnage de Madeleine, jeune femme de bonne famille, mélange de douceur, d'ironie et de fermeté, s'inscrivant toujours avec justesse dans cet univers à la fois cruel et poétique, une participation qui témoigne sans doute de sa capacité à briller, même dans dans les rôles les plus discrets, on l'a dit. Le réalisateur Luc Dardenne, qui l'a révélé, on l'a dit, avec son frère dans son film Rosetta en 1999, parle d'elle avec une grande tendresse. Elle était intuitive, mais travaillait beaucoup. Elle aimait travailler, recommencer, trouver autre chose. Et nous aussi, on aimait ça, tourner. C'était sa vie, c'est une actrice qui aurait pu faire plein de choses et que les gens aimaient. Elle était magnifique, elle était là dans tout ce qu'elle faisait et on sentait que la caméra l'aimait. Au revoir là-haut est donc l'adaptation d'Albert Dupontel du prix Goncourt 2013, magnifique, un livre éponyme de Pierre Lemaitre, le film peut-être le plus personnel et le plus original du réalisateur français. Et c'est complètement fait pour lui.
De quoi s'agit-il dans ce film ?
Eh bien, nous sommes à Paris en novembre 1919, dans une France marquée par les séquelles de la Première Guerre mondiale. L'histoire est celle de deux poilus, l'artiste de bonne famille, Édouard Péricourt, et le petit comptable Albert Meillard, dont l'amitié est née dans les tranchées, dans la même dédastation d'un lieutenant-colonel Pradel après la guerre. Édouard, donc, qui est une gueule cassée, et Albert, traumatisé, vont se venger de l'ingratitude de l'État en montant une escroquerie assez astucieuse, d'ailleurs, au monument aux morts. Et pendant que de son côté, le lieutenant Pradel fait de juteux bénéfices en signant avec l'État un contrat pour transférer dans les cimetières militaires les dépouilles des poilus. Ce qui est très curieux dans ce film, c'est que ça démarre comme un film réaliste. Les premières minutes du conflit sont filmées à peu près comme Il faut sauver le soldat Ryan, vous savez, de Steven Spielberg. Et ensuite, les scènes, très impressionnantes, où nous voyons la gueule cassée qui souffre, c'est presque du naturalisme. Ensuite, on part plutôt vers la fable, et dès qu'Albert Dupontel s'arrête sur des scènes, c'est formidable. Il a vraiment un don d'écriture des personnages, une vision, ce mauvais esprit qui est toujours là, vous savez, en même temps. Avec un talent de directeur d'acteur, ici, nous entendons vraiment la rage de Dupontel.
Mais c'est encore par sa capacité d'invention formelle et son sens du décorum passionnant que le film impressionne.
Du masque que porte notre soldat blessé aux reconstitutions vivantes et incarnées du Paris des années folles, tout est aussi précis que superbe et chaque élément sert alors à construire une fresque épique, picaresque, politique et intime tout à la fois, qui donne le sentiment d'une créativité d'une ampleur rare, du genre qui nous fait croire au pouvoir d'enchantement des récits d'aventure à l'ancienne au cinéma. Ce n'est pas rien tout cela, et puis heureusement, au revoir là-haut, n'est pas qu'un bel objet, et c'est bien sa dimension humaine, habitée, qui nous frappe, car si Dupontel lui-même épate en homme gentil et sincère, dont Chaplin peut-être lui-même aurait pu être un cousin, Nahuel Pérez Biscaillard, lui, livre une performance muette sidérante d'expressivité. Nous retiendrons aussi Laurent Lafitte, impeccable en méchant cupide, Nils Arestrup, Émilie Dequesne, je l'ai déjà mentionné, ou encore Mélanie Thierry, chacun et chacune au diapason de ce film complet, palpitant, poétique et surtout fondamentalement émouvant. Un film crépusculaire, dantesque, magistral, un film qui vous explose aux yeux, un film très personnel donc pour Albert Dupontel, car c'est complètement lui, c'est anarchiste, c'est mécréant, c'est révolté, c'est formidable, avec une liberté et une audace dans ce film remarquable. C'est formidablement bien construit et mis en scène, très bien raconté, donc c'est bouleversant. Alors évidemment, Dupontel est très à l'aise, vous savez, quand il s'agit d'attaquer les institutions religieuses, militaires ou encore bourgeoises, mais il raconte ici aussi la timide et précoce émancipation des femmes. C'est un film bouleversant sur le rapport au père aussi. Il y a plusieurs intrigues à l'intérieur du film. C'est fou, opératique, et en même temps, ça vous broie le cœur, tellement c'est beau de mélancolie. À retrouver donc sur Netflix et en Blu-ray, en les DVD chez Gaumont. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
C'est Christophe Julien qui a composé la bande originale du film d'Albert Dupontel, Au revoir là-haut.
N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
Laurent, vous explorez l'affiche de la semaine avec l'ouvreuse ce soir.
Et oui, à l'affiche cette semaine, La Cache, le nouveau film de Lionel Bayer avec Michel Blanc et Dominique Raymond. L'histoire de Christophe, 9 ans, qui vit les événements de mai 68, planqué chez ses grands-parents dans l'appartement familial à Paris, entouré de ses oncles et de son arrière-grand-mère, et tous bivouac autour d'une mystérieuse cache qui révélera peu à peu ses secrets. Alors, la cache du titre, c'est d'abord ce grand appartement de la rue de Grenelle, dans laquelle vit de façon assez bohème, une famille d'intello parisien. Alors, le film est adapté d'un livre du journaliste Christophe Boltanski, où l'on pourra reconnaître dans ses personnages certains membres célèbres de sa famille, son père Luc, qui était poète et sociologue, et son oncle Christian, qui était plasticien. La cache désigne aussi ce recoin mystérieux de l'appartement dans lequel le jeune héros du film est persuadé qu'un chat a élu domicile. Et la cache, enfin, c'est aussi une façon d'évoquer l'histoire, avec ses trous, ses zones d'ombre, ses replis secrets, où l'on peut enfermer des souvenirs et d'où peuvent aussi surgir des hantises. D'une guerre franco-française à l'autre, le film sonde l'écho toujours vivace des années d'occupation dans le Paris de mai 68. Or, ce matériau, a priori très théorique, est traité par Lionel Bayer d'une façon plutôt joyeuse, légère, qui parvient à éviter l'écueil de la reconstitution nostalgique des 30 Glorieuses. Le réalisateur préfère parler de choses grandes, sur un ton vif et amusé, ménageant parfois ses effets, comme dans cette scène de restaurant avec Michel Blanc, dont c'est le dernier rôle au cinéma. On vous laisse la découvrir. La Cache, en toute logique, est un film discret et assez profond. Louis-Marie, vous avez rencontré le réalisateur Lionel Bayer.
Oui, Lionel Bayer qui a été conquis par le livre est compliqué d'adapter un livre comme celui-là qui parle d'une famille sur un moment très long, très longtemps, pratiquement caricature presque, mais pratiquement un siècle, et qui circonscrit l'histoire à un mois. Ça fait peu, mais finalement, c'est ce qui fait aussi l'intérêt du film. C'est compliqué. Il a même dit que, dans le bouquin, que je n'ai pas lu, le mai 68, c'est un demi-paragraphe.
Ah oui, en effet, oui.
Un demi-paragraphe. Ouais. Et dans son film, c'est toute l'étendue de l'histoire. Et avec tout ça, il arrive à faire à rendre tout l'intérêt de découvrir cette famille et l'intrigue de cette cache. Et justement, ce qui était important, c'est pour lui, c'est d'arriver à tirer ce film, mais il ne pouvait le faire que si il centrait son propos sur ce mois de mai 68, parce que parler de la guerre et de l'Allemagne nazie et de ce qui est arrivé aux Juifs, c'était trop compliqué pour lui de le faire frontalement. Alors il a utilisé ce subterfuge. On l'écoute.
68, ça permet plus de liberté parce que c'est une révolution qui est vue comme plus heureuse. C'était comme pour les grandes ondes pendant la révolution portugaise. C'est une révolution heureuse. Donc dans le fond, on peut se permettre plus de latitude. On peut faire plus d'humour. On peut plus rire de la situation. Il faut beaucoup, beaucoup de talent et il faut peut-être être passé à travers des événements pour, comme Lubitsch, pouvoir rire des camps de la mort comme il le fait dans To Be or Not To Be. Il faut avoir échappé soi-même, en fait, à ça et le faire en 42 quand c'est en train de se passer et avoir son talent et son génie, ce que je ne prétends pas avoir, pour trouver le ton juste. Donc, je ne me voyais pas faire de l'humour avec 39-45, par contre, avec 68, oui. Et avec le décalage que 68 permet aussi, parce que le cinéma était un cinéma pop à l'époque et qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre aussi de l'artificialité. Quand vous voyez les films de Jean Yann, par exemple, puisqu'on on le cite un petit peu dans le film, ou ceux de Pierre Richard de cette époque, il y avait une sorte d'artificialité qui était revendiquée, dans laquelle je pouvais plus me reconnaître que la gravité de 39-45.
Et alors, il joue là-dessus, il ne cherche pas à reproduire la réalité. On est finalement plus dans une BD, parce que quand il fait des effets spéciaux, on voit que ce sont des effets spéciaux, ils sont dans la voiture, mais on voit que c'est une projection derrière eux, et peu importe. Et quand il s'arrête, la projection s'arrête, mais on s'en fiche. Après, ça marche parce que les acteurs sont formidables et qu'on rentre dans cette histoire grâce à eux. Finalement, le décor, d'une certaine façon, importe peu, mais le propos est là, est bien là, et c'est une belle réussite. La Cache, Lionel Bayer.
À l'affiche aussi cette semaine, on dira un mot sur Sariri, un film de Laura Donoso. Nous sommes dans un petit village minier au cœur du désert dans le nord chilien et les femmes sont soumises aux diktats imposés par les hommes. Dina, 16 ans, confrontée à une grossesse non désirée, prévoit de partir à la ville. Sa jeune sœur Sariri, qui vient d'avoir ses premières règles, elle devra quitter le village pour un parcours solitaire dans le désert. Et Dina ne veut pas laisser sa sœur subir la violence de ses rapports masculins-féminins. Mais comment le fera-t-elle? Laura Donoso a étudié le cinéma à l'Université du Développement au Chili. Et pendant ses études, elle a travaillé bien sûr sur des courts-métrages étudiants. Elle est réalisatrice et co-scénariste de Sariri, qui est son projet universitaire final et qui devient donc son premier film. On pourra le voir par exemple jeudi, c'est-à-dire demain à 13h30 à l'American Cosmograph. Odile, un petit mot sur le film Sariri?
Oui, bien sûr. Sariri est un film que nous suivons avec grand intérêt puisque Ciné Latino pour la première fois distribue. C'est vraiment notre opéra prima dans ce domaine. Avec les films des deux rives. Et donc, c'est un film qu'on a suivi, qu'on a travaillé, qu'on a, c'est un très joli film. En plus, il est vraiment bien réussi. Je pense qu'il centre bien les problèmes, aussi bien. Le résumé est un résumé, mais je pense qu'il analyse assez bien les rapports entre les hommes et les femmes, mais aussi les rapports des hommes à leur travail, les rapports des hommes à leur vie, les rapports des femmes à leur vie. Et en fait, le fait d'aller seul dans le désert, c'est pas quelque chose qui est particulier à cet endroit-là. Nous avions déjà eu, il y a plusieurs années, un film qui est magnifique, bolivien, qui montrait une jeune fille de 13 ans qui faisait une traversée du désert à pied seule. Et c'était quelque chose que les Andins autrefois faisaient, que les enfants devaient, à un moment donné, assumer leur vie.
Et ils devenaient adultes comme ça, peut-être, hein?
Oui,
c'est une tradition.
Voilà, c'était vraiment un rite de passage. Oui. Et je pense que c'est quelque chose qui n'était pas particulier, enfin, qui était dans les Hautes Andes, ça se faisait. Alors que ça se fasse dans le nord du Chili, ça ne m'étonne pas. Parce que, je vous dis, le film en question, on voyait une jeune fille qui marchait. En fait, elle arrivait à peu près à l'endroit où est Sariri. C'est-à-dire au Chili. Autrefois, c'était la Bolivie, cet endroit-là.
D'accord.
Donc, il y a eu la guerre du Pacifique qui a privé la Bolivie de cette partie qui va jusqu'à la mer. Et donc, c'est vraiment la même région. Donc, ça m'a pas tellement étonnée de voir cette jeune fille qui devait partir seule dans le désert. C'est quelque chose qui se faisait. Bon, ça correspond ici à un rituel de passage qui a rapport avec les règles. Dans l'autre film, c'était pas présenté comme ça. C'était plutôt simplement une arrivée à l'âge adulte. Et ça, en fait, ça lui prenait un mois, donc bien plus longtemps que les règles.
Un film à découvrir donc, dans le cadre des Ciné Latino. Oui. Consultez le programme, il est diffusé plusieurs fois, j'imagine.
Oui. Et en région, il va partir
en région aussi. Oui. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott. Guillaume, je sais que vous êtes un fan de Sylvie Vartan, ce film est pour vous.
Grand fan.
Louis-Marie, vous, ce sera plutôt le pain d'épices, puisque c'est Prosper que je vous propose. De Johan Klagel. Faudra aller au Régent à Saint-Gaudens quand même, hein, c'est pas à côté. On peut voir aussi Magma de Cyprien Vial, qu'on peut voir par exemple au Grand Palais à Cahors. Vermiglio, La mariée des montagnes de Mora del Perro, Radio Prague, Les ondes de la révolte de Jiří Malel, qu'on peut voir aux deux Utopias, hein, Bordeaux Rouge et Tournefeuille, un dessin animé Blanche-Neige de Marc Webb, tiens, ça s'est jamais fait.
C'est pas un dessin animé,
c'est en prise réelle.
C'est en prise de vue réelle, vous savez, c'est la nouvelle politique de Disney qui refait tous ses films animés en prise de vue réelle, et là en plus c'est une comédie musicale.
Ah super, j'adore ça. J'irai pas. On peut voir aussi une seule Talk Nice de Barry Levinson. On peut retrouver Robert De Niro. Et puis pour finir, Baby de Marcello Caetano, où l'on retrouve deux personnages au nom assez célèbre, puisque c'est Willington qui rencontre Ronaldo, figurez-vous. Et pour finir, un documentaire, Lumière, l'aventure continue, de Thierry Frémaux. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walk in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid look. I should have made.
C'est bien Émilie Dequesne qui chante « I Will Survive », c'est dans le film de Luca Bellevaux. Pas son genre, elle aime le karaoké, elle y va avec ses copines et elle chante « I Will Survive » et elle a la robe lamée, elle est extraordinaire. On en a les larmes aux yeux, comme elle d'ailleurs. Vous avez la preuve, c'est bien un karaoké. Et si nous retrouvions tout de suite, notre homme de loi des séries qui va nous parler du mouvement de la Terre et de son final, une série animée qu'on peut voir sur Netflix en particulier.
Je déclare l'audience ouverte.
Cher Louis-Marie, très souvent, je peste contre Netflix. Je peste contre Netflix parce que je trouve qu'avec des moyens assez importants, ils pourraient nous donner des films de meilleure qualité. Electric State, le dernier film avec Millie Bobby Brown, mettre autant d'argent pour un résultat aussi médiocre, ça fait mal. Je peste aussi parce que c'est une délivre des séries insipides, faites à mon avis par ChatGPT, et assez insupportable, à part Cobra Kai, évidemment. Mais je dois avouer que là où Netflix est très très bon, c'est en tant que distributeur d'animés japonais. Alors déjà, il y avait eu le très grand Dan da Dan, qui est que je vous conseille, qui est un animé complètement loufoque. Ils ont récupéré les droits de l'excellent Frieren, j'en avais parlé aussi dernièrement. Ils ont Dragon Ball Daima, donc vraiment, Netflix... Bravo. Mais là où ils ont été excellents, c'est en prenant l'animé japonais du mouvement de la Terre. Alors oui, c'est bien, ça s'appelle comme ça, du mouvement de la Terre. Je vous avais parlé de la première partie en fin d'année dernière, en vous disant si la deuxième partie est tout aussi excellente, on va avoir droit peut-être à un des meilleurs animés de ces 10 dernières années. Mais je peux vous le dire, la deuxième partie est terminée. C'est pour moi un de mes 5 animés préférés, toutes générations confondues. Alors déjà, premier point pour vous rassurer, c'est un animé qui n'est pas long. C'est 25 épisodes, il n'y aura pas de suite, il y a une fin définitive très, très satisfaisante, une des plus belles fins que j'ai pu voir. Et je vous spoilerai pas, ne vous inquiétez pas. Donc là aussi, vous n'allez pas embarquer sur un truc comme One Piece avec plus de 1000 épisodes. Non, vous avez 25 épisodes avec un scénario extraordinaire. Je rappelle le thème de « Du mouvement de la Terre ». Nous sommes en Europe, ça va être précisé plus tard où, et nous avons des personnages qui s'interrogent sur le géocentrisme et l'héliocentrisme. Le géocentrisme, c'était le dogme de l'Église à l'époque, c'était de penser que la Terre était au centre de l'univers, c'était le Soleil qui tournait autour de la Terre. Et l'héliocentrisme, c'était de penser que, justement, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et ça pose des questions théologiques avec est-ce que vraiment la Terre a été le centre créé par Dieu, tout ça, assez extraordinaire. La finesse d'écriture de Du mouvement de la Terre, c'est qu'à la fois, ils arrivent à faire une critique de l'Église de l'époque, mais aussi une analyse positive de l'Église de l'époque. Parce que oui, les chercheurs de l'époque, ben, ils étaient religieux. Et donc, c'est l'affrontement entre plusieurs visions de la religion, plusieurs visions de la philosophie et plusieurs visions de la recherche et au final, de l'avenir de l'humanité dans son ensemble. Et ça n'élude rien. Ça montre les atrocités qui ont été faites à l'époque au nom de l'Église. Mais ça montre bien, et c'est ça toute la finesse d'écriture, que ce n'est pas la religion qui a amené ça. C'est les gens qui l'ont interprété, les gens qui en faisait n'importe quoi. Et c'est là où c'est fin par rapport à ce qu'a l'habitude de nous donner Netflix. C'est qu'habituellement, on adore taper sur la religion catholique, hein, c'est facile. Et on a tendance à n'en montrer que des figures négatives en ce moment. Là, on en voit des figures très négatives et des figures très positives et des gens partagés entre les deux. Et la réponse finale, l'épisode final est magnifique, délivre toute une réflexion sur le questionnement de l'humanité, sa place dans l'univers et son évolution au fur et à mesure. Je pense que j'ai rarement pris une telle claque. Je me suis rarement autant questionné à la fin d'un animé et même d'une série télé. Et vraiment, ça fait plaisir d'avoir un dessin animé qui ne nous prend pas pour des idiots. Alors, c'est pour adultes, parce qu'il y a quand même des phases compliquées, notamment sur l'Inquisition. Mais le message qui est délivré et humaniste et beau. Et ça nous rappelle qu'effectivement, nous sommes une espèce qui doit toujours douter, s'interroger, chercher à comprendre les mystères de l'univers et qu'en fait, notre avenir commun, c'est cette réflexion-là. C'est de dire comment on peut transcender les mystères à la fois de notre origine et les mystères de l'univers. Avoir un animé qui vous délivre ça, ça fait un bien fou. Un moment où tout divertissement doit être débile, ou toute œuvre doit être aseptisée pour ne froisser personne du mouvement de la Terre qui est l'inverse. C'est une œuvre magnifiquement dessinée, magnifiquement animée, avec une bande-son génialissime, des personnages ultra complexes. Ne cherchez pas le personnage ultra positif, il n'y en a pas. Ils sont tous teintés dans la nuance. C'est aussi un animé qui ne va pas vous imposer son point de vue, qui va vous donner des clés de compréhension, qui va dire « Viens, on va réfléchir ensemble. » Du mouvement de la Terre est pour moi peut-être l'œuvre la plus majeure que j'ai pu voir dans ces 10 dernières années. Donc vous l'avez compris, chers auditeurs, votre temps est précieux. Passez-le devant Du mouvement de la Terre. Vous ne le regretterez pas. Je vous remercie.
Il n'hésite pas à utiliser les superlatifs, notre homme de loi des séries. Est-il totalement impartial, lui qui est un fervent amoureux des animés japonais et de la culture japonaise? Néanmoins, on peut lui faire confiance, oui, n'est-ce confiance. Pas On lui fait confiance. Ouais. Voyez donc Du mouvement de la Terre sur Netflix. On passe sans transition aucune sur cette musique passablement inquiétante, signée Olivier Arson, No Volverá Matar. Pourquoi ? Eh bien parce que dans la programmation Film Noir de la Cinémathèque, dont nous sommes partenaires, et donc vous pourrez aller voir ce film aux abattoirs, puisque c'est au Musée des Abattoirs et à son auditorium que vous pourrez le découvrir, c'est Que Dios nos perdone. Voilà un film noir espagnol extraordinaire. Vous savez qu'ils se sont employés à copier le film noir à l'américaine, mais alors là, c'est un vrai de vrai et 100% espagnol, énormissime. Un tueur en série, deux flics qui vont pas ensemble. Ça se passe sur plusieurs années avec une fin assez extraordinaire. Ne ratez ce film sous aucun prétexte. C'est Rodrigo Sorogoyen qui l'a réalisé et vous pouvez le voir samedi 22 mars, c'est-à-dire samedi prochain à 18h, comme vous irez aussi à la Cinémathèque parce que vous tomberez amoureux de Laura. Non, c'est Laura, il faut dire Laura là, d'Otto Preminger. Comment ne pas être amoureux de Gene Tierney? Je comprends pas, c'est pas possible de ne pas être amoureux de Jean Tierney, vendredi 21 mars à 18h30. C'est aussi dans le cadre du film noir et c'est aussi à la Cinémathèque, hors les murs, à savoir au Musée des Abattoirs. Sinon, vous irez rapidement voir First Man, le premier homme sur la Lune de Damien Chazelle avec Ryan Gosling dans le rôle de Neil Armstrong. C'est au Pâté la Belge en VO lundi 24 mars à 21h à Rodez. On en a déjà parlé, mais on le redit. Mardi 25 mars à 13h45 au VO, c'est au CGR, The Big Lebowski des frères Coen.
Ah oui, on n'a pas manqué.
Comme on ne manquera pas ce film magistral de Robert Altman proposé par Vive le cinéma à Muret au VO de Muret dimanche 23 mars à 18h20, Buffalo Bill et les Indiens. Paul Newman affreux, Buffalo Bill affreux, Sitting Bull qui essaye de s'en sortir et ça finira mal pour lui. Au CGR, Le Paris à Montauban en VO, Le Dernier des Mohicans, quand Michael Mann s'essaye au grand spectacle avec Daniel Day-Lewis. Ouais. Et puis à l'American Cosmographe, Moi Christian F, drogué, prostitué, le film qui chavira le début des années 80. Tout est dit dans le titre, il n'y a rien à masquer. Et puis Les Neuf Reines, film sublimissime de Fabian Bielinski, on a peur de rien. Restauré et qu'on pourra voir parce que c'est Ciné Latino dans 3 séances en avant-première avant sa sortie. Voilà pour le grand écran, pour le petit c'est avec vous Laurent.
Le cinéma, la télévision, ça commence dès ce soir sur Arte à 21h avec La Fille Inconnue des frères Dardenne avec Adèle Haenel. L'histoire de Jenny, jeune médecin, se sent coupable de ne pas avoir ouvert la porte de son cabinet à une jeune fille retrouvée morte peu de temps après. Jenny n'a plus qu'un seul but, trouver le nom de cette jeune fille pour qu'elle ne soit pas enterrée anonymement. La comédienne Adèle Haenel trouve ici l'un de ses plus beaux personnages. Jeudi sur France 4 à 21h10, ce sera Les Rascals de Jimmy Laporal Trésor. Milieu des années 80, Paris, en balade dans la capitale, un groupe de jeunes banlieusards croise par hasard un skinhead. Les coups ne vont pas tarder à pleuvoir. Premier long métrage au ton assez singulier, porté par de très convaincants jeunes comédiens à découvrir. Vendredi France 5, 21h, on en a parlé tout à l'heure, on pourra revoir Rosetta des frères Dardenne avec la regrettée Émilie de Ken. Rosetta vit dans une caravane avec sa mère, alcoolique. Elle est déterminée à s'en sortir dignement, c'est-à-dire trouver un travail pour pouvoir mener une vie normale. D'une âpreté et d'une force peu commune, hein, ce portrait de jeune femme est un bouleversant uppercut cinématographique. On l'a pas dit tout à l'heure, mais il avait eu la Palme d'Or à l'unanimité en 99. Et puis dimanche, Arte 21h, Tom Horn, sa véritable histoire, un film de 1980 de William Wyrd avec Steve McQueen. En 1901, Tom Horn, jadis un célèbre traqueur d'Indiens, débarque dans une bourgade du Wyoming. John Cobble, un riche éleveur, lui offre un contrat. Il doit aider les riches propriétaires à lutter contre les voleurs de bétail en tuant si besoin. Superbement photographié, un western crépusculaire et mélancolique avec très très bon Steve McQueen comme d'habitude. Le conseil Blu-ray, ce sera Flo, le chat qui n'avait plus peur de l'eau, de Gins Zimbalodis. Alors que l'espèce humaine semble avoir disparu, le chat Flo, lui, il navigue sur les flots, hein, puisqu'il se retrouve sur une arche de Noé improvisée, en compagnie d'un chien, de lémurien, d'un gros rongeur, d'un drôle d'oiseau et de Guillaume.
Tout à fait. Dans
c'est
le
l'un de vos films préférés.
Je suis tombé à l'eau aussi.
Et je vais vous l'offrir. Sachez que ça vaut 19 euros quand même, et qu'on peut le retrouver aux éditions UFO Distribution. Tenez Guillaume, je vous l'offre.
Eh bien, merci beaucoup. J'ai vu le film deux fois, mais je le reverrai avec plaisir.
Vous le verrez une troisième fois en VO. Voilà pour le cinéma et la télévision cette semaine.
Ces petits oiseaux, eh bien on peut les entendre et en les voyant voler dans la forêt vierge, parce que c'est la bande annonce. On pourra les voir avant tous les films de Ciné Latino et les entendre, bien sûr, parce que c'est la bande annonce de Ciné Latino. Encore une fois, remarquable avec.
C'est l'affiche.
L'affiche est extraordinaire. Tous les ans, vous faites une affiche magnifique.
Quel est l'artiste?
Ronald Cuchod. Ouais. Qui est d'ici, de Toulouse, lui.
Oui, oui. Mmh. Il n'en manque aucune. Il les a jamais ratées.
Ben non, mais celle-là, on l'aime particulièrement cette année. Elle a une douceur, elle est très belle.
Et donc, et chaque fois, vous animez cette affiche au début des bandes annonces. C'est extraordinaire.
Oui, c'est un garçon qui nous fait ça tous les ans. Et ces petites animations, je les adore. Il y en avait une il y a quelques années, en 2012, je crois. C'était un bateau avec une jeune fille et il y avait le chat qui remuait la queue et les nuages qui pleuvaient sur la.
Oui,
c'était très très joli ça.
Très beau. Alors, ce qui est joli aussi, c'est
Daniel Virgüez qui nous fait ça.
Il y a de belles choses. La musique aussi est remarquable. On a entendu quelques extraits. On la doit à Puerto Perla et Victor Capulli. Mm-hmm. Et on a parlé des compétitions, qu'elles soient de fiction ou documentaire. Il y a aussi des découvertes.
Oui.
Et on va voir un film, alors il est très attendu, tout le monde l'attend avec impatience, c'est Mexico 86 de César Diaz. Pourquoi ? Parce qu'il y a Bérédice Bejo dedans.
Je l'attends aussi.
Vous l'attendez aussi ?
Oui, je l'attends aussi, parce que je ne l'ai pas vu. Alors je ne peux pas en parler, mais je l'attends.
Ben oui, c'est incroyable, la ferveur qui
est autour, oui.
Est-ce que ça se passe autour de, pas du tout, parce que la Coupe du Monde 86 était au Mexique à cette époque-là, ou ça n'a rien à voir ? C'est juste le...
Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas vu le film. Et alors d'accord. Là, celui-là, je ne l'ai pas sélectionné.
J'ai le résumé sous les yeux, apparemment. Ça n'a rien à voir.
D'accord. Non, ça n'a rien à voir. Puisque c'est l'histoire d'une militante qui va devoir choisir entre sa passion, son militantisme et ses enfants, et son fils en particulier de 10 ans. Voilà, c'est tout. Donc on saura tout. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des sorcelleries.
Il y a une chose importante aussi, c'est que dans notre focus, il y a cette fois un chapitre qui s'appelle Miradas y voces indígenas. Et là, on a toute une série de longs métrages qui sont faits par des indigènes, et des courts-métrages. On a aussi fait deux programmes de cours, parce qu'en fait, les mondes indigènes latino-américains sont très variés. En fait, il y a des peuples qui ont 10 000 ans et qui n'ont jamais vécu dans les frontières qui existent maintenant, qui passent par-dessus allègrement parce que ce n'est pas les leurs, tout simplement, parce que ça fait 200 ou 300 ans qu'on les leur a imposés, mais eux, ils n'ont jamais eu ces frontières-là. Donc, ça ne correspond à rien pour eux. Et donc, ils ont une façon de voir le monde et de le comprendre, une intelligence du monde qui est complètement différente, et que, disons que les gouvernements dominants, qui sont tous de type occidental, ne comprennent pas et, en général, méprisent. Et donc, ils ont, sur le réel, un point de vue très différent. Et là, ils se sont emparés depuis quelques années maintenant du cinéma comme une façon de montrer le monde à leur façon. Et là, on a toute une programmation qui est quand même très intéressante. On a fait des choix esthétiques, des choix aussi que ça puisse représenter des peuples différents. Et à chaque fois, dans le programme, on a fait le choix de les marquer par leur langue, parce que c'était un repère pour les situer plus pertinent qu'une frontière. Voilà. Donc, on a fait des séries courts-métrages pour pouvoir avoir un éventail plus vaste, et de points de vue, et de manière de penser le monde, et aussi d'attitudes personnelles des gens qui font les films. Donc, c'est très varié du point de vue des styles, aussi bien des fictions, des documentaires, mais aussi des performances, des choses, des vidéos artistiques. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très, très varié.
Oui, et en plus, ils utilisent leur langue.
Ah ben bien sûr.
Ils utilisent leur langue, il y a des
la
titres.
La plupart des films sont en langue, dans la langue de celui qui fait le film, de la communauté dans laquelle a lieu le film.
Et c'est assez extraordinaire de le voir écrit, parce que on reste un peu ébahi.
Ah ben c'est sûr, là, oui.
Oui, il y a le titre d'un film mexicain, le premier du programme court, qui est assez spectaculaire. On se demande si c'est...
On ne sait pas très bien le prononcer.
Vous êtes capable de le lire, ça,
non,
Odile Boucher ?
Moi, je ne sais pas comment on le prononce véritablement.
Ça a été traduit à l'espagnol, et puis ensuite de l'espagnol au français, j'imagine.
Oui, c'est-à-dire que nous, on a travaillé avec des sous-titres espagnols, ce qui est très frustrant. Parce que, si vous voulez, quand on sous-titre un film, enfin, c'est un travail que je fais souvent, quand c'est entre l'espagnol et le français, ça va, parce que c'est des langues qui sont quand même suffisamment parentes pour que même l'ordre des mots puisse respecter à peu près, hein, sauf exception, l'ordre des mots initial. Mais là, par exemple, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont longues. Je suppose que la langue doit utiliser une périphrase plus longue pour exprimer quelque chose que l'espagnol dit plus court, et inversement. D'accord. Et donc, on a des sous-titres qui sont un peu en accordéon par rapport au discours. Et ça, c'est très embêtant. D'accord. Parce que quand on ne connaît pas du tout la langue, en fait, on n'a aucun recours pour le faire. On n'a pas. Alors, il paraît qu'il y a à Paris une école où on travaille beaucoup de langues d'Amérique. Alors, on voudrait essayer, en fait, maintenant, parce qu'on voudrait continuer ce suivi des films de cinéma des peuples originaires, parce qu'il nous semble très intéressant et très riche. Et on voudrait essayer de se mettre en contact avec cette école pour voir si on pourrait trouver des traducteurs qui pourraient au moins approcher un certain nombre de langues déjà.
D'accord. Mmh.
Eh bien, avec tout ça, il ne reste qu'une chose, se précipiter à Ciné Latino.
Ah oui.
Du vendredi 21 au dimanche 30 mars, dans tous les lieux dont nous venons de parler. Et on peut aller retrouver toutes les infos sur le site. Mm-hmm. Hein,
sur le site, il y a les infos, il y a la possibilité d'acheter les billets par plusieurs.
Cinemalatino.com.
Cinelatino.fr.
Et puis évidemment le programme que vous trouverez dans un endroit que vous fréquentez sûrement.
La médiathèque par exemple.
Oui, il y en a un peu partout, il y en a dans les MJC, il y en a dans plein d'endroits.
Tous les lieux culturels.
Dans les centres municipaux aussi.
Mmh. On écoute les oiseaux avant de partir, et sur les oiseaux, on vous donne nos coups de cœur. Quels sont vos coups de cœur, Laurent?
La Cache Sariri, qu'on pourra voir dans la Ciné Latino.
La Cache Sariri, Ciné Latino, Radio Prague, et puis le film noir, cinéma@radioprésence.com pour vos coordonnées.
Et oui, pour aller voir un film noir, La Cache pour moi, Sariri bien sûr, et Ciné Latino évidemment. Merci Odile Boucher d'être venue nous voir.
Merci à vous.
À la semaine prochaine à 20h, c'est bonne Nathalie soirée. Cardon. Salut les garçons, et restez vite à la présence.
Les chroniqueurs de Radio Présence, chaque matin au service de votre quotidien.
Alors l'image de l'assureur, elle a, semble-t-il, pas mal souffert pendant la période du Covid. Et aujourd'hui, l'image de l'assureur...